Vous écoutez Radio France Internationale, bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 9h à Port-au-Prince, 15h à Paris.
RFI Midi, Anne Cantner.
L'actualité du continent américain jusqu'à 13h30, temps universel. Nous parlerons de cette évacuation à UCLA, à Los Angeles, aux États-Unis. Les campements d'étudiants pro-palestiniens ont été démantelés. Il y a quelques heures, nous irons aussi en Haïti. Parler notamment de ces déclarations du président colombien. Il a expliqué hier qu'un certain nombre de munitions et d'armes qui avaient été volées à l'armée colombienne pouvaient avoir été vendues à des gangs. Et puis l'actualité des Outre-mer, comme chaque jour. Benoît Ferrand, vous nous parlerez tout à l'heure des petites Antilles, plus que jamais au cœur du trafic de stupéfiants dans la mer des Caraïbes.
La dernière saisie en date, près de 2 tonnes de cocaïne, c'était mardi à Saint-Martin, ne fait hélas que le confirmer. C'est ce que nous dira tout à l'heure un confrère de la première Guadeloupe.
A tout à l'heure, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes. Merci à tous d'être avec nous. Et avant tout cela, on va faire le point sur l'actualité internationale, à commencer par cette mobilisation étudiante, on en parlait à l'instant, contre la guerre à Gaza. Elle continue, Gilles Moreau, aux États-Unis comme en France.
Oui, après les violences de mercredi, la police américaine a été déployée sur plusieurs campus, procédant à des arrestations, notamment à New York et à Los Angeles. Los Angeles, où la police est en train de démanteler les barricades dressées par les manifestants. Guillaume Nodin, bonjour, vous êtes notre correspondant permanent.
Bonjour Gilles, bonjour à toutes et à tous.
Donc l'intervention a commencé.
Oui, absolument. L'intervention a commencé il y a un peu plus d'une heure. Un peu avant 5 heures du matin, en heure locale, les policiers sont entrés sur le campement de UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles, en démontant les barrières, les barricades et les tentes mises en place par les manifestants qui s'étaient installés là depuis une semaine. Sur les images des chaînes d'information américaines, on a pu voir des forces de l'ordre réduire peu à peu l'espace occupé par les derniers manifestants équipés de casques, de lunettes de protection et de masques, parfois des masques contre les gaz lacrymogènes. Selon les chaînes américaines, mais c'est à confirmer, les policiers auraient fait usage de lanceurs de balles de défense contre certains manifestants. Cette intervention était attendue depuis plusieurs heures. Hier soir, la direction de l'université, qui avait été compréhensive jusqu'ici, a informé que l'occupation du campus était désormais illégale et que les protestataires qui resteraient sur place seraient arrêtés. Il faut dire que le risque était monté d'un cran depuis la nuit précédente et des affrontements entre les manifestants pro-palestiniens et des contre-manifestants pro-israéliens qui s'étaient attaqués au campement. La police était intervenue et les avait séparés, mais il a sans doute été estimé que cela ne pouvait plus durer. Selon les images en direct de la télévision américaine, après la charge policière, les arrestations se déroulent actuellement dans le calme, mais l'opération se termine alors que le jour se lève sur Los Angeles.
Merci pour toutes ces précisions, Guillaume Nodin.
La liberté d'expression sur les campus américains, sujet brûlant depuis le début des manifestations contre la guerre à Gaza.
Oui, encore plus depuis les opérations de police pour déloger les manifestants. Et c'est dans ce contexte que la Chambre des représentants a voté une loi sur la sensibilisation à l'antisémitisme. Le texte doit, selon ses partisans républicains et démocrates, permettre aux autorités fédérales de lutter contre les manifestations antisémites sur les campus. De leur côté, Abla Jounaidi, les opposants au texte jugent qu'il va trop loin, qu'il menace la liberté d'expression.
Oui, le texte bipartisan a été voté hier par 320 voix, dont 70 démocrates et 21 républicaines. S'il devenait une loi, il imposerait une définition plus large de l'antisémitisme. Cela reviendrait à réprimer certains discours sur Israël, par exemple, affirmer que l'État d'Israël est une entreprise raciste ou établir des comparaisons avec la politique des nazis. En vertu de ce texte, le ministère de l'Éducation pourrait révoquer les financements fédéraux accordés à une université si elle ne prenait pas de mesures contre les étudiants exprimant ses opinions. Fixer ainsi une limite à la critique d'un État, c'est une atteinte manifeste au premier amendement de la Constitution pour l'Union américaine des libertés civiles. Lors de débats électriques hier à la Chambre, certains élus ont crié à la manœuvre politicienne des Républicains. En cette année électorale majeure, selon les détracteurs de cette loi, ils chercheraient à resserrer leur rang autour d'une cause, celle du soutien à Israël, tout en soulignant les divisions entre démocrates, l'aile gauche du camp démocrate ayant voté contre ce projet de loi qui doit maintenant être examiné par le Sénat à majorité démocrate.
Abla Jounaidi, voilà pour les États-Unis. En France, le gouvernement redouble de vigilance face à la multiplication des actions de soutien à Gaza sur les campus. La ministre de l'Enseignement supérieur a demandé ce matin au chef d'établissement de veiller au maintien de l'ordre public.
La Russie rejette les accusations, selon elle, infondées de Washington sur l'utilisation d'armes chimiques en Ukraine.
Oui, dans un communiqué, le département d'État a précisé ses accusations contre la Russie. Elle a eu recours, selon lui, à un agent, la chloropicrine, contre les forces ukrainiennes, et ce en violation de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques.
Le premier met théâtre d'un nouvel épisode dans la guerre des gauches en France.
Oui, on l'a vu sur les images hier. Raphaël Glucksmann a dû être exfiltré d'un cortège après avoir été pris à partie par des manifestants. Des agresseurs téléguidés par les Insoumis, a dénoncé le candidat des socialistes aux européennes. Mensonge, a rétorqué le parti LFI. En fait, l'action a été revendiquée par les jeunesses communistes, même si des militants LFI ont été aperçus. Aurélien Levernois, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Là de cet incident, Aurélien, c'est le signe d'une campagne qui se tend de plus en plus à gauche.
Oui, avec depuis hier, des interpellations et imprécations sans fin dans les médias et sur les réseaux sociaux entre les différents partis de l'ex-NUPES, avec quelques maigres tentatives d'apaisement au milieu. Mais il est évident que la progression de Raphaël Glucksmann dans les intentions de vote, entre 13 et 14% actuellement, attise les attaques le visant. L'alliance PS Place Publique qu'il représente estime d'ailleurs qu'il s'agit d'un basculement. Exit la radicalité des insoumis et retour en force de la social-démocratie. Analyse que ne partage évidemment pas la France Insoumise, qui minimise d'ores et déjà le résultat final de ces européennes pour se focaliser sur la présidentielle 2027. Et dans cette perspective, les Insoumis estiment que la gauche modérée n'a aucune chance, d'où leur stratégie de clivage, y compris avec leurs ex-alliés de la NUPES. Analyse partagée en partie par les écologistes. Le vote Glucksmann, c'est un répit que s'accordent les électeurs de gauche et certains macronistes. Ça ne mange pas de pain, estime ainsi David Cormand, numéro 2 sur la liste emmenée par Marie Toussaint. Mais ça ne présage pas de la suite qui sera bien sûr l'éventuelle recomposition de la gauche à l'issue du vote du 9 juin.
Éclairage signé Aurélien Devernois, merci à vous. La crise politique est encore montée d'un cran en Géorgie, ex-république de l'ex-URSS. Hier soir, ils étaient des dizaines de milliers rassemblés à Tbilissi devant le Parlement. Depuis plusieurs semaines, ces manifestants pro-européens s'opposent à un projet de loi porté par le parti au pouvoir. Les députés de la majorité l'ont adopté en seconde lecture. Parmi les réactions, celle de Paris qui défend le droit à manifester pacifiquement.
Les géants du pétrole épinglés lors d'une audition au Sénat des États-Unis.
Oui, une commission d'enquête parlementaire a rendu ses conclusions sur les pratiques du secteur pour nier l'importance du réchauffement. Bien que conscientes des effets néfastes de leurs activités sur le climat, ces entreprises font néanmoins tout leur possible pour en minimiser l'ampleur, quitte Simon Rosé à désinformer sciemment.
Et oui, la conclusion est claire. Depuis des décennies, l'industrie pétro-gazière américaine sème le doute sur les conséquences climatiques de ses activités. Une stratégie élaborée même qui ne nie plus aussi frontalement qu'auparavant l'existence du réchauffement climatique, mais qui le relativise en faisant usage de tromperies, de double langage et de désinformation, estime la commission d'enquête. Deux exemples, Gilles. Tout d'abord, l'argument récurrent qu'en réalité, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone, ce ne serait pas une si mauvaise chose, car le CO2 serait bon pour la pousse de la végétation. Ou alors, on peut ne pas nier le réchauffement climatique, mais se garder de tout alarmisme, des discours relativistes que l'on retrouve aujourd'hui dans la bouche de nombreux responsables politiques. Ce n'est pas étonnant, c'est le résultat, selon ce rapport, d'une stratégie de lobbying intense de la part des groupes pétroliers. Constat appuyé par l'étude de centaines de documents internes à ces entreprises, documents illustrant comment elles ont travaillé depuis des années afin de verdir leur image tout en luttant en coulisses pour affaiblir les réglementations climatiques.
Simon Rosé, merci à vous. Un mot de football avant de conclure. Après le Paris Saint-Germain, c'est au tour de Marseille de jouer en Coupe d'Europe. Marseille qui vise une place en finale de la Ligue Europa. Ce soir, match aller au Vélodrome face aux Italiens de l'Atalanta à Bergame. Et puis on connaîtra le 13 mai le lauréat du prix Marc-Vivien Fauet RFI France 24. Prix qui chaque année désigne le meilleur joueur africain de la Ligue 1. Qui sont les trois finalistes? Réponse ce soir dans Radio Foot, l'émission d'Annie Gasnier à 16h10, temps universel. Dans les médias, la suite d'RFI Midi avec vous, Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. On va parler de l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Des armes colombiennes en Haïti, ça n'est pas la première fois qu'on en parle. Mais le président colombien lui-même a souligné hier l'ampleur du problème. Gustavo Petro s'est exprimé sur cette question une fois de plus. Il avait déjà évoqué des problèmes de sécurité. Il avait déjà parlé de l'implication d'un commando colombien dans l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Et hier, il a parlé des armes disparues, volées à l'armée colombienne. Plus d'un million de munitions manquantes, a dit hier Gustavo Petro.
Parmi les seules munitions 5.56, il y a plus d'un million de munitions manquantes. Cela comprend les balles, les explosifs, les grenades, les armes telles que les missiles, etc. La seule façon d'expliquer ce manque en munitions est qu'il existe depuis longtemps des réseaux de personnes issues des forces armées et des civils qui se consacrent au trafic massif d'armes légales de l'État colombien. Ces armes ont probablement fini dans des conflits à l'étranger, le plus proche étant Haïti et à 7 heures en bateau à moteur de la base de la Guajira, et probablement aussi sur le marché international du trafic d'armes. Il s'agit d'un fait grave, parce que les disparitions que j'ai décrites ici dans le cadre de cette mission sont d'une grande ampleur.
Voilà les propos du président colombien. Le journal Le Nouvelliste y consacre un article aujourd'hui et nous allons en parler avec son rédacteur en chef. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Anne.
Gustavo Petro a parlé une nouvelle fois donc du rôle de son pays dans les malheurs d'Haïti, écrivez-vous, en affirmant, on vient de l'entendre, que des armes, des munitions de l'armée colombienne étaient sans doute vendues aux gangs.
Alors il faut dire qu'entre Haïti et la Colombie, il se passe quelque chose de grave. D'abord, c'était des hommes, un commando qui est arrivé, qui a, selon toute vraisemblance, participé à l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Ils sont encore en prison en Haïti, les membres de ce commando qui avaient été capturés. Le président colombien s'est excusé en quelque sorte à plusieurs reprises pour ce qui s'est passé. Et depuis, il est monté, je dirais, en gravité pour expliquer qu'il y a sans doute des liens entre des trafiquants colombiens et des forces en Haïti. Et aujourd'hui, il explique que des munitions perdues se sont sûrement retrouvées en Haïti. Il a parlé de munitions, de balles, de grenades, mais aussi de missiles et d'armes anti-chars. Tout cela inquiète beaucoup en Haïti, d'autant que cette information arrive au moment où il se dit de plus en plus que la mission multinationale d'appui à la sécurité va arriver fin mai en Haïti. Et on apprend qu'il y aurait des munitions de niveau jamais entendu en Haïti qui seraient disponibles sans doute pour les gangs.
Une mission qui doit aider la police à lutter contre les gangs. Ils font toujours parler d'eux dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. La coalition Vive Ensemble a semé par exemple la terreur dans plusieurs quartiers hier.
Particulièrement au centre de Port-au-Prince, le quartier de Solino, de Delma 24. Hier soir, les images ont circulé sur les réseaux sociaux. Les gens s'étaient désemparés, en train de fuir leur domicile avec seulement ce qu'ils avaient sur le corps. Des parents, des enfants, des femmes, des vieillards. Tout le monde courait dans tous les sens pour se mettre à l'abri d'une nouvelle razzia et des gangs dans ce quartier de Port-au-Prince. Il faut dire que cela arrive périodiquement. Quand ce n'est pas un quartier, c'est un autre. Mais les gangs n'ont jamais cessé d'attaquer, de pourchasser et surtout de mettre en péril la vie des habitants les plus pauvres de ce quartier, souvent des quartiers populaires, sans défense. Et la police nationale n'arrive pas à contenir, encore moins à repousser ces gangs.
Alors, il y a eu un succès quand même face aux gangs. Hier, la police a réussi à rétablir l'accès au terminal de Vareux, qui était bloqué depuis quasiment deux semaines.
Tout à fait, mais il faut dire qu'on doit être très prudent. D'abord, on ne sait pas si la distribution des produits pétroliers va pouvoir reprendre. Hier, la police a réussi à dégager la route. Il n'y a pas eu d'affrontement, ce qui signifie que les gangs n'ont pas résisté. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se remettre à faire les 400 coups aujourd'hui. On attend, parce que ça fait une quinzaine de jours que certaines stations à essence ne sont pas alimentées en produits pétroliers. On attend pour voir qu'est-ce qui va se passer. Mais hier, effectivement, la police a réussi à dégager la route. Mais on attend. Il y a c'est un succès, mais on est encore prudent pour savoir comment l'interpréter.
Et puis, Franz, la crise politique couve l'organisation politique. Fermín Lavalas n'a toujours pas digéré l'annonce de lundi. Le choix d'un président du Conseil présidentiel de transition et d'un Premier ministre sans le vote annoncé, mais à l'issue d'un accord politique entre quatre des groupes qui composent le Conseil.
Alors, il faut dire que c'est un véritable coup d'État qui s'est produit au Conseil. Et il y a une majorité qui s'est présentée. Il n'y a même pas eu d'élection puisqu'ils sont quatre dans un conseil de 7 membres. Avec 4 membres, ils ont la majorité. Ils ont imposé le président du conseil. Les élections n'ont même pas eu lieu. ils ont annoncé qu'ils avaient un candidat désigné pour le poste de Premier ministre, Fritz Belizer, et ils ont annoncé déjà aussi qu'ils vont former le gouvernement et qu'ils vont aussi former le Conseil électoral provisoire. Ils se sont entendus, c'est le bloc majoritaire insoluble, c'est la nouvelle formation et qui a annoncé avoir quasiment pris le pouvoir. Il faut dire que pour le moment, la communauté internationale est embarrassée. Il n'y a pas eu les félicitations d'usage, il n'y a pas eu les bravos habituels des diplomates. Et pour le moment, il y a des tractations pour voir comment on peut au moins les faire revenir sur le choix du Premier ministre. Mais ça ne s'annonce pas bien pour le Conseil présidentiel de transition, d'autant que la majorité étant de 4 membres, ils ont les 4 membres. Pour le moment, ils imposent leur loi. Mais Efemi Lavalas a protesté et le bureau de suivi de l'accord de Montana a sorti une note pour protester. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent.
Merci Franz Duval. Et je profite de vous avoir en ligne pour souhaiter un bon anniversaire à votre journal qui, même très éprouvé, fête cette semaine ses 126 ans. On souhaite évidemment une longue vie aux nouvellistes. Merci Franz Duval. On entendait il y a quelques instants le président colombien Gustavo Petro qui a fait une autre annonce hier, la rupture des relations diplomatiques avec Israël. L'affaire est à la une de toute la presse que vous avez lue pour nous, Marine Lebec. Vous allez nous accompagner pendant les 20 prochaines minutes pour feuilleter les journaux du continent. Et en Colombie, donc, on n'est pas si surpris par l'annonce de Gustavo Petro.
Non, Anne, c'est surtout la forme du discours qui n'a pas convaincu le journal et les spectateurs. Cela montre que comment le travail délicat de la diplomatie, autrefois astucieux et discret, a été remplacé par des discours provocateurs dans l'espace public et sur les réseaux sociaux. Le quotidien estime que la rupture des relations risque d'impacter le quotidien des Colombiens. Israël est l'un des principaux alliés du pays en matière de sécurité.
Marine, vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques minutes, mais avant, on va prendre la direction du Mexique.
RFI, la radio del mundo.
Dernière ligne droite, le pays est à un mois des plus grandes élections de son histoire. Le 2 juin, les Mexicains choisiront leurs députés, leurs sénateurs, leurs gouverneurs, leurs maires et leurs présidents. Il y a 3 candidats en lice pour succéder au chef de l'État, mais le match devrait se jouer entre 2 femmes. La dauphine du président sortant, Claudia Sheinbaum, et l'opposante de centre-droit, Xochitl Galvez. Un mois avant, où en est-on ? On va faire le point avec notre invité. Bonjour David Recondo.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche au CERI à Sciences Po. Alors depuis des mois déjà, les sondages donnent Claudia Sheinbaum en tête. D'ailleurs, le président sortant lui-même est toujours très populaire. Face à elle, il y a une candidate d'opposition qui est très offensive, mais derrière, dans les enquêtes d'opinion. L'élection est-elle déjà jouée ?
Une élection n'est jamais jouée complètement, donc je me garderai bien de faire ce genre de déclarations, mais la différence en fait entre Claudia Sheinbaum et Xochitl Galvez est vraiment très grande encore aujourd'hui, même après un second débat public à la télévision, qui avait un peu réduit, semblait-il, l'écart entre les deux candidates. Il y a de fortes chances, effectivement, que ce soit la continuité qui l'emporte, mais il peut se passer toujours, on peut toujours avoir des surprises, et dans les élections latino-américaines des dernières, même de l'année dernière, d'ailleurs, il y a eu quelques surprises dans plusieurs pays. Donc, voilà, il y a une tendance forte, mais il ne faut pas considérer que c'est déjà joué d'avance.
Cette campagne, elle est marquée par des violences. Un centre de réflexion mexicain a compté 45 assassinats liés aux élections en seulement quelques mois. Est-ce que ça pourrait faire gagner des voix à Xochitl Galvez, voire carrément faire basculer l'élection en sa faveur ?
Effectivement, la violence a toujours une influence sur les élections. Elles ont souvent été violentes, ces élections d'ailleurs, par le passé aussi. Et l'effet que ça peut avoir, c'est effectivement que les gens aillent moins voter. Et quand les gens vont moins voter, c'est en général les candidats, du parti qui est au gouvernement, qui tentent à gagner. Donc l'abstention serait effectivement favorable à Claudia Sheinbaum dans ce cas-là. C'est la crainte qu'on pourrait avoir. Faire basculer les résultats, j'en suis pas sûr, mais marquer une différence, oui, certainement.
Alors l'un des enjeux sur cette question, c'est aussi la militarisation de la sécurité publique.
Oui, ça c'est probablement le point le plus critiquable de ce sexennat, hein, puisque ce sont 6 ans de mandat du président Andrés Manuel López Obrador, c'est qu'il avait fait campagne en 2018 pour une police moins corrompue, une meilleure stratégie de sécurité publique, et en fait, il n'a fait que renforcer la participation de l'armée qui était déjà importante dans la stratégie de sécurité publique. La garde nationale qui avait été construite et mise en place par son prédécesseur sur le modèle de la gendarmerie nationale française a été placée directement sous la tutelle du ministère des armées en 2022, et elle était déjà d'ailleurs composée de militaires, hein, comme la gendarmerie française, mais elle a été placée directement sous tutelle du ministère de la Défense, et les militaires sont vraiment aux commandes pour toute la stratégie de sécurité publique, ce qui provoque évidemment d'énormes problèmes, notamment de violation des droits humains de façon massive.
Et ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait peser sur la dauphine du président. Claudia Sheinbaum s'inscrit vraiment dans la ligne du sortant, AMLO, ce bilan la sert-elle ou est-ce qu'au contraire ça pourrait lui nuire ?
C'est un bilan qui peut lui nuire, tout comme celui des scandales de corruption qui ont été, éventés maintenant pendant les campagnes, les débats notamment. Il y a toujours des réactions très variées dans la société qui sont ceux de la perception de l'insécurité. Donc la perception de l'insécurité a été variable plutôt en faveur de la candidate Sheinbaum, dans la mesure où il y a une perception moindre d'insécurité ces derniers temps. Et c'est paradoxal parce qu'il y a énormément de violences liées au crime organisé, à la grande criminalité, mais en même temps il y a des perceptions d'insécurité qui ont plutôt évolué de façon positive dans certaines villes du pays. Donc, il y a toujours une ambivalence. L'armée faisant œuvre de police peut être perçue comme une garantie de sécurité pour les uns. Pour les autres, c'est davantage de risques pour les libertés fondamentales et les droits humains en général.
Il y a une dernière question que je voulais vous poser, il nous reste très peu de temps, mais je voulais vous entendre sur ce point. Xochitl Galvez attaque aussi systématiquement sur la question de la corruption de l'administration. Est-ce que ça marche ?
Ça marche, effectivement. Il y a quand même, au Mexique comme ailleurs en Amérique latine, un ras-le-bol dans la société, une perception générale de corruption à tous les niveaux et de défiance vis-à-vis de la classe politique. Donc oui, ça peut jouer. C'est un argument. Xochitl Galvez l'utilise beaucoup parce qu'elle sait que le bas blesse sur cette question-là et que ça pourrait avoir un effet sur le vote le 2 juin prochain.
J'avais dit que c'était une dernière question, pardon, mais en quelques secondes, deux femmes principales candidates, une femme à la tête du Mexique, ça peut encore être un frein pour les électeurs mexicains ?
Non. Non, je ne crois pas. Ça, c'est pas non. Même si une troisième candidate dont on n'a pas parlé, Maynès, a beaucoup de succès auprès des jeunes, mais des jeunes qui, en général, votent moins. Le fait que ce soit deux femmes, non, ce n'est pas... Ce n'est pas un problème en soi. Il y a eu peu à peu une sensibilisation de l'opinion publique par des politiques de parité qui sont très, très avancées, les plus cohérentes et déterminées des dernières décennies en Amérique latine.
Donc, et ça marche visiblement.
Ça marche absolument. Ce n'est pas une question qui soulève des réactions négatives.
Je vous remercie beaucoup, David Recondo, d'avoir été en ligne avec nous, chargé de recherche aux séries à Sciences Po. Merci.
Je vous en prie. Merci. RFI,
The World's Voices. On prend maintenant la direction des États-Unis où les mobilisations étudiantes contre la guerre à Gaza, contre la politique aussi du président Biden, se poursuivent sur un certain nombre de campus. La presse y revient. On va donc en parler avec vous, Marine Le Bègue. La police est intervenue dans plusieurs établissements, notamment à UCLA, à Los Angeles, où les campements sont démantelés. Les manifestants ont été évacués de force cette nuit. Pourtant, selon les reporters de New York Times présents sur place, l'établissement ne voulait pas en arriver Mandela.
Oui, Anne, l'université UCLA se voulait un exemple de tolérance et de paix, assure le journal. Mais elle a finalement déclaré illégal le campement et ordonné à la police de déloger les manifestants. Les agents du campus n'ont pas réussi à maîtriser la situation et l'université a appelé en renfort la police trop tard, dénonce le New York Times. L'établissement n'était pas suffisamment préparé et a mis les jeunes manifestants en danger. Aujourd'hui, la frustration est généralisée quant à la manière dont UCLA a géré l'incident, insiste le journal. L'école s'est référée à sa doctrine qui évite d'impliquer les forces de l'ordre, à moins que cela ne soit absolument nécessaire pour protéger la sécurité physique des personnes présentes sur le campus. Ce changement extrême survenu sur le campus a été donc difficile à comprendre pour beaucoup d'étudiants, déplore le New York Times.
Et à New York, justement, intervention également des forces de l'ordre. Notre envoyé spécial y a rencontré un étudiant, un jeune militant, qui explique que la politique de Joe Biden pourrait bien lui coûter la réélection en novembre. On prend maintenant la direction de la Floride, où s'est déplacée Kamala Harris hier, la vice-présidente, pour parler de l'avortement, dénoncer l'entrée en vigueur d'une loi très restrictive qui interdit l'avortement au-delà de 6 semaines de grossesse. Un autre État où l'accès à l'IVG oppose les camps démocrates et républicains, c'est l'Arizona. Eh bien Marine, une loi qui interdisait l'avortement, une loi qui datait du 19e siècle, vient d'être abrogée.
Oui Anne, une loi littéralement sortie des entrailles de l'histoire. Elle date de 1864. Les États-Unis étaient alors en pleine guerre de sécession, rappelle Politico. Elle interdisait tout IVG dès la conception, sauf si la vie de la mère était en danger. La Cour suprême de l'Arizona l'avait jugée applicable début avril. Son abrogation, finalement par le Sénat de l'Arizona, a rendu possible par le camp, démocrate empêche que cette loi puisse être appliquée. Elle garantira l'accès à l'IVG à des millions de femmes, se réjouit le journal.
Marine Le Bègue pour la revue de presse, à retrouver sur internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de la première, bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Anne.
Les petites Antilles, plus que jamais au cœur du trafic de stupéfiants dans la mer des Caraïbes.
Et la dernière grosse saisie en date, près de 2 tonnes de cocaïne ce mardi à Saint-Martin, ne fait hélas que le confirmer. Jordi Rayapin, la première Guadeloupe.
C'est parce que l'offre croît que la demande augmente aussi, notamment en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, mais surtout en Europe. Une production plus conséquente qui impacte forcément les Antilles françaises, devenues de vraies plaques tournantes. Plusieurs réseaux de cocaïne alimenteraient alors, toujours selon les forces armées, quelques 600 000 consommateurs réguliers en France. Un trafic qui génère donc, d'après les mêmes estimations, près de 3 milliards de dollars de recettes rien qu'en France. Nicolas Lambropoulos, commandant supérieur des forces armées aux Antilles, décrit même une production record de la poudre blanche. Environ 2300 tonnes produites en 2022 dans les pays d'Amérique latine comme le Pérou, la Colombie ou encore la Bolivie. Un business illicite extrêmement rentable pour les narcotrafiquants. Pour qu'ils soient en bénéfice, il suffit qu'une infime partie de la cocaïne produite échappe au radar et arrive sur le marché. Environ 5% de la marchandise. Depuis 10 ans, les forces armées aux Antilles saisissent une quantité de cocaïne beaucoup trop faible, insuffisante pour espérer stopper le trafic. En moyenne, 5 tonnes par an. En attendant que l'État leur fournisse des moyens importants pour combattre le trafic sans le subir.
Direction la Guyane, où 1421 étrangers en situation irrégulière ont été placés en 2023 au centre de rétention administrative de Matoury. 468 d'entre eux ont été ensuite éloignés du territoire. La responsable locale de la CIMAD, Pauline Rahi, dénonce une politique abusive d'enfermement, notamment en ce qui concerne les Haïtiens.
La situation des personnes haïtiennes nous préoccupe particulièrement. Le fait qu'elles soient enfermées alors qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement. Les organisations internationales ont appelé à ne plus éloigner de force les personnes de nationalité haïtienne. L'administration s'entête à les enfermer au centre de rétention, alors qu'en 2023, il n'y a pas eu d'éloignement depuis le centre de rétention de Guyane. Actuellement, pour la plupart, elles sont libérées sur décision du juge judiciaire, voire du juge administratif, mais parfois après un délai d'enfermement qui est très long et trop long à nos yeux.
Pauline Rahi de la CIMAD Guyane au micro de Véronique Nison. Bon après-midi Anne, à demain.
Merci Benoît Ferrand et merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui encore. RFI Midi se termine à la réalisation ce jeudi. Vincent Biteau, merci beaucoup. Ça a été un peu chaotique, vous ne le voyez pas, mais derrière la vitre, ça s'est beaucoup, beaucoup agité. Vous restez sur RFI dans quelques secondes, de vive voix avec Pascal Paradou. Très bonne journée à tous.
8 milliards de voisins.
Laurence Garcia attend vos témoignages sur le thème de demain.
Elles sont mamans solo, d'ado. Comment assurer seule tous les rôles d'éducation et d'autorité durant la fameuse crise d'adolescence? Quel soutien pour les mamans solo?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.